J'ai pensé, ben en fait, j'ai pas pensé, le pasteur Joël m'a demandé de vous montrer où est-ce que je m'en allais un peu en Indonésie. Et il dit ça, des fois, les gens ne réalisent pas que c'est loin. Fait que c'est la première fois qu'on va en Indonésie, puis on est vraiment excité d'y aller parce que l'Indonésie, c'est le pays qui a le plus grande population musulmane dans le monde. En Indonésie, il y a 13 % des musulmans qui se trouvent dans le monde entier sont en Indonésie. Puis, c'est comme un voyage qu'on fait. On est 35, c'est un plus petit voyage parce que les gens avec qui on va travailler, ils sont contents, mais ils sont aussi un peu nerveux. Parce qu'en Indonésie, il y a une loi qui dit que tu n'as pas le droit de convertir quelqu'un. Puis, il y a beaucoup de persécution envers les chrétiens. Puis si un musulman décide de devenir chrétien, comme dans les autres pays, c'est comme souvent sa famille te laisse aller. Des fois, ils peuvent même physiquement être abusifs envers toi. Fait que nous, notre but, c'est de commencer à y aller et de retourner, de retourner, de retourner en Indonésie. Fait que pour ce faire, on y va avec une petite équipe pour la première fois. On utilise de sagesse et de stratégie pour être capable de rejoindre le monde, puis aussi encourager l'église locale avec laquelle on va travailler pour leur montrer que ça se fait, puis qu'on peut bien réussir les choses sans nuire aux autorités, sans nuire aux gens, puis sans, on ne veut pas nuire non plus à l'église locale, on veut les aider. Fait que je vais vous montrer. Fait que là, tantôt, on part de Montréal là-bas. J'arrête à Vancouver, 5 heures. Après ça, j'arrête le point, là, c'est Singapour. Ça, c'est, je pense, c'est 13 heures. Puis après ça, j'ai un autre 3 heures, puis j'arrive en Indonésie. Fait que 5 plus 13, 18 plus 3, 21 plus les arrêts, c'est un 26-27 heures de voyagement. Mais t'écoutes des films, puis tu dors dans l'avion. C'est ça le truc. Alors, c'est ça que je disais, il y a 279 millions de personnes en Indonésie. Puis la population qui n'a pas encore entendu l'Évangile là-bas, c'est 195 millions, ce qui représente 70 % de la population. 83 % des gens sont islam, puis des chrétiens évangéliques, c'est juste 3,23. Fait que c'est un peu comme le Québec. Sauf que nous, on n'est pas entourés de d'autres religions qui nous empêchent de partager l'Évangile. Ça, c'est une map de Joshua Project. Puis au fond, les points verts, puis les points rouges, ça représente toutes les régions, puis les peuples, puis les eux, ils appellent ça des people groups, fait que c'est différentes, soit cultures ou ethnies, on pourrait dire, qui ont été rejoints par l'Évangile. Fait que quelqu'un est allé ou ils ont accès à des bibles ou à des. Quelqu'un pour évangéliser. Tous les points rouges, c'est où est-ce qu'il n'y en a pas du tout d'accès ou que ce n'est pas fait encore. Nous, on va être dans les points rouges, là, au milieu. Fait que j'ai vraiment hâte pour de vrai. Ça fait longtemps qu'on veut y aller, puis on est vraiment, vraiment content d'y aller. Fait que j'ai hâte de vous dire aussi, quand je vais revenir, tous les miracles que Dieu va avoir fait, puis toutes les choses magnifiques qui vont se passer. Merci beaucoup parce que vous priez puis vous me supportez depuis tellement longtemps puis je l'apprécie énormément. Ce matin, je voulais vous parler de honorer puis de la révérence, puis c'est quelque chose que je pense dessus depuis une couple de mois. Puis c'est venu de Nancy Dufresne, on vous en a déjà parlé, là, elle a fait une série sur les miracles et l'honneur ou la révérence envers Dieu, puis le lien entre ces deux choses-là. Puis on va aller voir dans 1 Roi 3, 1 à 14, puis on va parler du roi Salomon. Puis je ne sais pas, j'ai pris la Louis II. Moi, j'ai la nouvelle. On va lire sur le PowerPoint. En fait, j'ai pas la bonne. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Le temple n'était pas encore bâti, fait qu'il allait dans des montagnes. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur. Envers toi, tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » J'ai commencé au verset 1 où est-ce qu'il s'est dit que Salomon il a marié la fille du pharaon. Puis la raison pourquoi que je l'ai mis dedans, c'est parce que ça a eu une grande incidence sur sa vie plus tard. Puis je lisais pour voir Salomon quel âge qu'il avait, puis c'est pas clair quand il est devenu roi, mais ce qu'il pense, c'est comme jeune ado, jeune adulte. Bien, vieux ado, jeune adulte. Donc il était pas vieux. J'imagine quelqu'un, je sais pas, 19, 20, 21. Et déjà là, il voulait honorer Dieu, puis il voulait faire comme son père y avait fait. Fait que c'est pour ça qu'il est allé donner des holocaustes sur la montagne. Puis Dieu lui a demandé, « Qu'est-ce que tu veux que je te donne? » Puis moi, j'imagine n'importe quel ado, jeune homme ou jeune femme normale. Dieu te dit, c'est comme un génie dit, « T'as trois vœux, qu'est-ce que tu veux que je te donne? » Puis la plupart d'entre nous, notre instinct serait « 10 millions de dollars! » Non, je sais pas. « Je veux devenir une vedette internationale. » Non! Lui, il a demandé de la sagesse parce qu'il dit « Je veux bien gérer ton pays, bien gérer ton peuple, puis je veux de la sagesse, puis que tu m'aides à prendre les bonnes décisions. » Ça demande beaucoup de maturité. Je me pense à 18, 19 ans, pas sûr que j'aurais demandé ça, moi, jamais. Puis Dieu, il a dit, parce que tu as demandé ça, je vais te le donner, mais non seulement je vais te donner ça, je vais te donner toutes les autres choses que normalement tu aurais dû vouloir. Puis le but de ça, c'est que Salomon a choisi d'honorer Dieu, d'honorer ce que Dieu honore, ce que Dieu aime, qui était son peuple, qui aime encore aujourd'hui, puis de pas se centrer sur lui, mais de se centrer sur ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, ce que Dieu a à cœur. Puis quand que Salomon a décidé de fixer ses yeux sur Dieu et sur les choses que Dieu aime, bien Dieu a pu non seulement l'aider, mais il l'a béni. C'est écrit là qu'il était le roi le plus riche, le plus sage. Il a tout eu. Puis de ce que j'ai lu, il n'y a pas eu jamais personne qui a été aussi riche ni aussi reconnu pour sa sagesse que Salomon. C'est quand même cool. Puis quand on va dans 1 Roi 5, 9 à 14, on voit comment est-ce que la richesse de Salomon va commencer. Mes serviteurs et les descendront du Liban à la mer, je les expédierai par mer en radeau jusqu'au... Continue au verset 10. Non, c'est pas le bon. Excusez-moi. En tout cas, on voit qu'il est devenu très riche. Et très sage, parce qu'après ça, on a l'histoire des deux madames qui se battaient pour leur fils. Là. Puis Salomon, il a réussi à départager. Mais c'est dans verset 5. Ah, mais moi, c'est verset 9 dans mon affaire. Dieu donna à Salomon. J'avais le bon verset. Continue donc d'abord, peut-être qu'on n'est pas dans la même 1 ou 5. OK, et voilà, c'est à 12, mais dans ma version, c'est 9, je ne sais pas pourquoi. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon comme il le lui avait promis, et il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. Continue, Mélo. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée, ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement. Ils étaient un mois au Liban et deux mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès, autant qu'il en voulut. Tu peux continuer. OK. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans la montagne, sans compter les chefs au nombre de 3 300 préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres. La merde. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, un esprit aussi vaste que le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse de l'Égypte. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Éphraïte, plus que Éman, Calcol, Darda, les fils de Maol. Son nom était connu dans toutes les nations environnantes. Il a prononcé 3 000 maximes et ses chants sont au nombre de 5 000. Il a parlé des arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Il a aussi parlé des bêtes, des oiseaux, des bestioles et des poissons. Des gens de tous les peuples envoyés par tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de la sagesse de Salomon, venez écouter cette sagesse. Il était reconnu pour ça. Je ne sais pas pourquoi que j'ai... Non, mais moi, c'est un roi. Je suis un roi 5... 9 à 14. Confusion! Je vais changer de version, peut-être. C'est la nouvelle Bible selon ce que j'ai pris. Mais mon point, c'est qu'il était connu pour sa sagesse. Puis on voit plus tard qu'il y a même la reine de Saba qui est venue pour. Elle a parcouru, je pense, 1200 milles pour se rendre jusqu'à lui parce qu'elle voulait voir si c'était vraiment vrai qu'il était aussi sage que ce que les gens disaient, puis ce qu'elle avait entendu, puis aussi riche. Puis elle l'a questionné sur plein de choses, puis il a tout répondu à ses questions. Puis après ça, il a montré ses affaires, tout ce qu'il avait construit, puis là, il avait construit le temple entre-temps. Et elle lui a donné plein d'offrandes, puis plein de cadeaux, plein de trucs, parce qu'elle a dit « Wow, t'es vraiment sage, puis ton Dieu, il t'aime, puis il t'a donné de la sagesse. » Puis elle était pas, c'était pas la reine de Saba, c'était pas juif, là, c'était pas la tribu d'Israël, ça n'avait pas rapport, c'était probablement une autre religion. Là. Fait que Dieu, ce qu'il a promis à Salomon, parce que Salomon recherchait Dieu, puis recherchait à plaire Dieu, puis à l'honorer dans tout ce qu'il faisait, Dieu lui a donné. Mais si vous vous souvenez, dans le premier verset, ça dit qu'il a marié une femme qui était la fille du pharaon. Puis plus tard, on voit dans le chapitre 9, mais là, j'ose plus aller voir parce que je ne sais pas où je vais être. Verset 1, que ça n'a pas toujours bien été. Puis Salomon, probablement que c'était un beau monsieur parce qu'il y a eu 700 femmes, 300 concubines. Mais en fait, quand on lit, c'est qu'il s'est mis à marier des femmes de d'autres pays pour faire des alliances, pour avoir de la protection. Par contre, pourquoi que je vous parle de ça? C'est que Dieu lui avait dit, « Marie pas des femmes de d'autres nations. » Parce qu'elles pourraient t'entraîner à délaisser les voies de Dieu, à délaisser mes voies. Puis, mais lui, probablement qu'il pensait que c'était comme une alliance stratégique, puis il a décidé de le faire, puis il a outrepassé ce que Dieu lui avait demandé. Est-ce que vous pensez que Dieu lui a dit, « Fais pas ça parce que je veux t'empêcher d'avoir du fun dans la vie? » Non. C'était pour le protéger. Puis à cause de toutes ces femmes-là qui étaient qui venaient de différentes cultures, de différentes valeurs, bien, eux, elles se sont mis à faire des offrandes à leur Dieu, puis à tout ça. Et Salomon a même bâti des hôtels pour qu'elles puissent aller faire leurs offrandes, ce qui a fait qu'il s'est comme éloigné de Dieu. Puis Dieu, ça l'a mis vraiment de mauvaise humeur. Là, je le raconte parce que j'ose plus lire. Et il a dit, tu m'as désobéi. Je t'avais demandé de ne pas faire ça, puis tu l'as fait. Puis à cause de ça, tu vas pouvoir vivre longtemps, mais après ça, ton royaume va être détruit. Puis c'est ce qui est arrivé après. Toutes les autres nations environnantes ont comme pris le dessus. Mais il a dit, parce que ton père David, il était fidèle envers moi, je vais te laisser vivre, puis ça va arriver à ton fils. Mais il y a eu une conséquence, parce qu'il a, pourquoi? Il a détourné ses yeux de ce que Dieu honorait, puis ce que Dieu vénérait, puis ce que Dieu lui avait demandé. Pourtant, c'était l'homme le plus sage de son époque. Fait que, tu sais, les femmes. Mais ça peut arriver à une femme par rapport à un homme aussi. Mon point, c'est que le diable, là, il est vraiment subtil, là, parce que, ben des fois, non, mais souvent, il l'est. Puis, il va prendre ce que, pour toi, c'est quelque chose qui te fatigue ou qui te... Puis, il va utiliser ça pour essayer de venir créer une distance entre toi et Dieu, pour t'éloigner du plan de Dieu sur ta vie, qui est le plan parfait. Puis, c'est souvent insidieux, là, on s'en rend pas compte, puis ça commence par une petite affaire, une petite affaire, une petite affaire. Mais si on garde toujours nos yeux sur Dieu, puis on continue de l'honorer... On va être protégé de ça parce qu'on va rester dans sa volonté parfaite. Puis même si le diable va essayer, il ne réussira pas. Mais ça demande de l'effort de notre part aussi. Fait que si tu honores Dieu comme Salomon l'a fait, wow, sky is the limit. Littéralement, là, je pense que je ne sais même pas combien de trilliards, de milliards, ça équivalerait aujourd'hui. Mais Dieu lui a tout donné. Puis ici, on va voir dans Matthieu, chapitre 15, versets 1 à 9. Ça, je vais vous montrer des exemples de gens qui n'ont pas vraiment honoré Dieu. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Pour honorer Dieu, oui, on peut dire « Seigneur, je t'honore », mais si en action puis dans notre cœur, on ne le fait pas, pour Dieu, lui, c'est le cœur qui regarde toujours en premier. Puis, ce qu'il expliquait, c'est que les pharisiens, c'était comme les chefs religieux du temps. Puis, eux autres, ils disaient qu'il fallait que tu donnes de l'offrande, puis tout ça, puis ça peut être de la bouffe des fois qu'ils donnaient. Et quand ce que Jésus expliquait, c'était que si toi tu décides parce que tu veux aider tes parents, normalement tu aiderais tes parents parce que dans la Bible ça dit il faut t'honorer ton père et ta mère. Puis mettons en vieillissant ils ne travaillent plus, mais ils ont besoin que tu les assistes, ils ne sont plus capables de cuisiner, mais tu vas le faire. Mais là les pharisiens ils disent non, fais pas ça parce que toi il faut que tu honores le principe de honorer l'Église en premier aux dépens de tes parents. Fait que là, il dit, c'est un peu hypocrite, parce qu'au fond, tu oublies ce que la Bible dit, qui est d'honorer tes parents aussi. Puis, on va aller dans Marc 6, 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? » N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Ça amenait un autre exemple de gens qui ont décidé de ne pas honorer Jésus. Puis je pense que la conclusion de ce passage-là, c'est que si on devient trop familier, souvent on perd l'honneur. Vous avez-vous remarqué quand que des fois on devient trop familier avec des amis, puis là tout d'un coup on se met à faire des petits commentaires que peut-être qu'on n'aurait pas dû faire, qui n'étaient pas de nos affaires, puis on s'en mêle. Ça peut arriver. Mais avec Dieu aussi, des fois on prend Dieu pour acquis, puis on le laisse comme... pas grave, Dieu s'en occupe. C'est pas grave, je me suis plantée, là, et... Lui, ouais, ça va être correct avec lui. C'est pas grave si je l'écoute pas, là. Il va quand même me sauver. C'est pas ça son meilleur pour nous. Oui, il va quand même te sauver, mais c'est pas ça qu'il veut. Il veut que tu fasses... OK, tu veux pas que je fasse ça parce que tu veux me protéger. Ça me tente vraiment de le faire, mais m'a t'écouté. M'a t'honoré là-dedans. Je vais te reconnaître. Puis quand on fait ça, on ouvre la place à Dieu pour qu'il puisse agir miraculeusement dans nos vies. Pas juste faire des petites guérisons quelconques puis s'en aller sur son chemin. Non, il veut faire tout et plus qu'on peut penser ou imaginer. Fait que reconnaissons-le dans tout ce qu'il fait. Donnons-lui la place qui lui revient, qui est toute la place. Et si tu honores Dieu, mais lui aussi il va t'honorer. Jean 12, 25 à 26. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si tu es au service de Dieu, si tu l'honores, il va t'honorer. Parce que son but, c'est de te créer pour que tu sois béni, que tu sois prospère à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Ça, on l'oublie souvent, là, mais... Fait que si ton âme, si tes pensées, ton cœur prospèrent, ça veut dire que tu focuses sur Dieu, tu focuses sur ce que la parole de Dieu dit, bien, tout le reste autour va prospérer. Puis comment est-ce qu'on peut honorer Dieu? Il y a plein de manières, là, j'en ai juste sorti une couple. Dans Proverbes 3, versets 9 et 10, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Il y a, en anglais, la version que j'ai lue, ça dit d'honorer le Seigneur avec le wealth, avec ta richesse, ta prospérité. Pas juste avec tes biens. Tu sais, ça parle wealth, là, c'est comme plus que juste ta chaise ou ton sofa. Là. C'est comme. Tes biens, ta prospérité, tout ce que tu as. Puis, puis ça parle aussi des premiers fruits. C'est pour ça qu'il dit avec les, en français, les prémices. Fait que c'est les premiers fruits qui sortent. Donne-y ton meilleur, puis lui, il va te donner bien meilleur que ton meilleur. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. On peut honorer Dieu avec notre corps et on doit honorer Dieu avec notre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Fait que si je veux honorer Dieu avec mon corps, ça veut dire que je dois faire attention à mon corps. Je dois en prendre soin. Pas trop manger de poutine dans mon cas. Dormir. M'entraîner. puis écouter mon médecin ou écouter la sagesse, mais aussi pas prendre des choses qui sont nuisibles pour moi ou faire des choses avec mon corps qui pourraient être nuisibles pour moi. Des fois, ça peut être des sports extrêmes que tu passes puis tu t'aimes ça, si c'était sur le bord de mourir. C'était pas ce que Dieu veut que tu fasses. Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça, c'est au Saint-Esprit vous diriger. Peut-être que vous, la poutine, ça va être super bénéfique pour votre corps. Écoutez le Saint-Esprit. Et l'autre, je voulais vous parler, c'est dans 1 Pierre 2, 17, c'est de honorer les gens. Honorer tout le monde, aimer les frères, craignez Dieu, honorer le roi. Je pense que le dernier bout il est rendu assez difficile dans la vie où on est aujourd'hui, dans le monde politisé qu'on est aujourd'hui. Mais ça nous dit d'honorer notre roi, fait que même si on n'est pas d'accord avec toutes les décisions politiques qui se prennent, il faut les honorer. Ça ne veut pas dire qu'on va voter pour eux à chaque fois, mais on ne parle pas contre eux. On prie pour eux. Puis on honore les autres. On honore nos voisins, nos amis, les membres de cette église. On honore nos pasteurs, évidemment. On honore nos parents. Puis quand on porte honneur aux autres, mais ce qu'on est en train de dire, c'est à Dieu, c'est « Garde, ils sont importants pour toi, tellement que toi, t'es mort pour eux. » Moi, j'ai pas fait ça. Je suis pas mort pour ma mère, là. Elle non plus, pour moi. Tu m'as donné naissance. C'est quand même ça. Mais lui, il l'a fait. Fait que nous, tu sais, des fois, ça te tombe pas de parler à quelqu'un, puis je comprends, là. Ça m'arrive à moi aussi. Mais si en dedans, ça te dit « Vent, ouais, go, pardi », fais juste dire « Allô ». Tu sais pas, peut-être que ton « Allô » va changer sa journée à la personne. C'est tellement important d'être ensemble. Tu sais, il y a un psaume qui parle que comme il est bon pour les frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile qui descend le long de la barbe d'Aaron. Puis en fait, j'avais fait une étude sur ce psaume-là, puis ça l'amène l'abondance, la prospérité, l'unité, puis la force, c'est vraiment bénéfique. Donc, quand on passe du temps ensemble, quand on est ensemble entre frères et sœurs dans l'Église, mais aussi dans nos familles, l'unité, c'est tellement important. Puis c'est une place où Dieu, encore là, peut performer des miracles, puis être exalté et glorifié. Et finalement, tu peux honorer Dieu avec tes pensées. On va aller dans Ésaïe 55, 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Des fois, tu regardes une circonstance, là, puis ça m'arrive à moi aussi, puis je suis comme, oh, je ne sais pas quoi faire. Je suis comme, j'ai tout fait ce que je devais faire, j'ai tout fait ce que j'aurais pu penser à faire, puis j'en ai des idées là, qui me passent dans la tête. Là. Puis, tu peux laisser facilement le découragement comme prendre le dessus sur toi parce que tu es comme. Et là, c'est le temps de revenir en dedans de toi, d'écouter le Saint-Esprit, de prier, parce que ses pensées à lui sont bien plus hautes que les tiennes. Fait que toi, tu vois ça, mais Dieu, il voit tout. Puis lui, il connaît la réponse. Fait que si on l'honore par nos pensées, on l'honore en lui faisant confiance, man, il va agir, puis ils vont intervenir miraculeusement. Là. On a eu un truc qui est arrivé au magasin, puis moi, je suis pas bonne quand il y a des plaintes. Là. J'ai aucune... Premièrement, j'aime pas ça quand il y a un problème. Je déteste le conflit. Si je pouvais vivre dans un monde sans conflit, faire semblant, qu'il n'y en avait pas, ce serait moi. J'aime mieux... pas parler à la personne, puis faire comme si de rien n'était, puis genre éviter ça, mais au fond, ça règle rien. Et mon beau-frère, lui, qui est beaucoup plus pragmatique que moi, plus il se laisse moins avoir par ses émotions, en tout cas, ça paraît pas s'il y en a. c'est lui qui on a décidé qu'il réglait les problèmes. Fait que là, on a eu un problème. Mon beau-frère est allé, on a évalué, blablabla. On donne la lettre du problème. Puis le problème, c'est pas un problème. C'est un problème que la personne, au fond, a mal entretenu son plancher. Après, en passant, PSA, Public Service Announcement. Si vous savez pas avec quoi nettoyer vos planchers, venez me voir, je vais vous aider.
parce que vous pouvez ruiner vos planchers facilement avec tous les nettoyants antibactériels qui existent sur le marché en ce moment, qui brûlent vos planchers. Puis là, il est trop tard une fois que j'ai changé couleur, on peut plus le ramener. OK? Donc, non, mais c'est pas pour vous vendre rien. Je vais vous dire quoi faire à la maison, lesquels prendre. Je vous vendrai pas rien. Mon point, c'est... Fait que là, on a fait venir la compagnie, ils ont tout évalué, ils ont envoyé un papier, puis c'est nous qui doivent le donner au client. Et le client, pas content de la réponse, évidemment. Puis là, il revient au magasin, parce qu'il veut rencontrer Mathieu pour en parler. Puis là, d'accord, vous dites que c'est à cause de nettoyant, puis nanana, ça jaunit notre plancher. Puis il dit, j'avais pas de problème, il y a 6 mois, avec ma blonde dans l'emménage, puis qu'elle prenne ce nettoyant-là. Là, on est comme, t'es en train de nous dire toi-même que c'est ça le problème, tu sais. Mais tu peux pas dire ça. Fait que là, il faut être gentil. Puis là, Mathieu les écoute. Puis finalement, il dit, mais écoutez, ben là, tu vas-tu nous donner 90% de la valeur? Il dit, non. Il dit, le problème, c'est parce que vous l'avez pas suivi les recommandations. Puis la compagnie, ne peut pas le garantir parce que, ta-ta-ta-ta-ta. Il nous renvoie une mise en demeure pendant que Mathieu est parti en vacances. Puis c'est moi qui la pogne. Puis là, je regarde, je vois la facteur rentrer dans le magasin. Puis là, elle a une affaire pour faire signer. Puis là, je suis au téléphone, fait que je peux pas y aller. Puis là, il y a une des filles au magasin, elle va, puis elle répond. Puis là, j'étais comme, t'aurais-tu juste pas le prendre? Fait que là, mon père dit, je pense que c'est ça, t'as pas le choix de la prendre. J'ai dit, non, je peux refuser. Je savais c'était quoi. Fait que là, j'appelle le fournisseur. La personne qui s'occupe de ça est en vacances. Mais là, on a 10 jours pour répondre. Fait que là, je sais plus quoi faire. Fait que là, j'appelle un avocat qui nous a déjà aidé dans nos affaires. Puis il dit ça. Il dit, écris une lettre comme quoi que la personne qui s'occupe de ça, du fabricant, est en vacances. Puis que tu demandes une extension. Puis que s'ils respectent pas, puis qu'ils décident de le faire, bien, ils s'arrangeront, puis ils paieront eux-mêmes. Fait que je remplis ça, je fais ça, je renvoie. Puis là, je suis comme, OK, on va aller chercher le nettoyant parce qu'on avait pris des photos. J'avais dit à Mathieu de demander. On pogne le nettoyant, on appelle chez Sobeys nos compliments, on fait sortir la fiche technique pour savoir. C'est un produit hyper acide, ça brûle tout. Puis là, nous, on lave, là, puis moi, ma main, elle brûle. Puis eux, ils ont des chiens, je me dis, pauvre chien, s'ils lichent le plancher, en tout cas. Pas de nouvelles. Fait que là, nous, on teste le truc, puis notre plancher, en dedans d'une semaine, on a fait un test sur la même sorte de plancher. Puis il est jaune d'un bord, puis sale, puis l'autre bord est tout beau parce qu'on nettoie avec le produit neutre. Mais encore là, c'est pas assez pour eux. Puis, entre-temps, on prie, puis tout ça, puis Joël, je pense qu'il est un peu au courant quand il travaille au magasin. Les compagnies, là, c'est bien poche. Dans le couvre-plancher, ils t'aident pas. Même si c'est eux qui l'ont fabriqué, ils t'aident pas, c'est un problème. Parce qu'ils disent, c'est toi qui l'as vendu, c'est ton problème. Fait qu'eux, ils font une petite lettre, puis s'en débarrassent. Mais toi, il faut que tu parles au client, puis après ça, le client n'est pas comptable. Là, c'est toi qui fais ça, puis eux, tu n'as aucun support. Puis, fait que là, j'ai prié, puis Mathieu aussi, je sais qu'il priait parce que ça nous écœurait vraiment. Il était insistant, les gens, puis c'est fatigant parce que tu voudrais que tout le monde soit heureux dans la vie, hein? Des fois, ça ne marche pas. Et là, finalement, Beaulieu, la madame, elle revient de vacances. On y avait envoyé une copie de la lettre qu'on avait envoyée en attendant. Puis, ils nous ont réécrit le client pour nous dire, on accepte, on vous donne jusqu'au 30 août. Je suis comme, oh, pfiou. Et la personne qui s'occupe des plaintes du fabricant, elle nous regarde, elle dit, arrêtez. Elle dit, c'est à nous de s'en occuper. Elle dit, vous en avez fait plus que la moyenne des commerçants font. Elle dit, j'en viens pas, vous êtes allé chercher le nettoyant, que vous l'avez testé, que vous avez la fiche signalétique, que vous avez essayé de nettoyer, puis l'affaire. Puis elle dit, bien, prenez-moi des photos, puis envoyez-moi tout ça si vous voulez. Puis elle dit, mais c'est fini. On s'en occupe. S'il faut aller en cours, c'est nous qui y vont. Je te crois. Merci, Seigneur! C'est même pas le montant, c'est juste le stress de la patente. Mais tout ça pour dire que Dieu a une réponse tout le temps. Faisons-lui confiance, honorons-le. Puis une manière de l'honorer, c'est d'avoir foi en lui puis de faire confiance parce que lui a des idées bien plus intelligentes que les nôtres. Mais il veut nous les donner. Puis Éphésiens 3, 20, 21, je sais que je le lis souvent, ce verset-là. Alors, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, Dieu peut faire. Dieu, mais ce qu'il veut. Oui, il veut. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa puissance en nous, en toi, en moi, en chacun d'entre nous. S'il ne voulait pas réaliser plus qu'on peut penser ou imaginer, il ne nous aurait pas donné sa puissance. Mais il l'a fait parce qu'il vous a appelé à être des super-héros, pour de vrai. C'est pas juste d'un film, nous, on peut le vivre pour de vrai. Puis, Dieu veut vraiment juste le meilleur pour notre vie. Puis, à matin, là, merci encore les musiciens pour la louange, c'était vraiment bon. Puis, c'est le fun de voir que à l'Église, là, tout le monde embarque ensemble, puis on loue Dieu, puis on l'adore d'un même cœur, puis ça l'amène sa présence. Puis ça, il y a des miracles qui se passent dans les vies des gens, aussi pendant la prédication, mais aussi pendant la louange. Il y a des gens qui sont guéris, il y a des gens qui sont délivrés, il y a des gens qui ont des idées pour comment résoudre des situations dans leur vie. Ça aussi, c'est une autre manière d'honorer Dieu. Puis je vous invite à avoir cette révérence constante pour Dieu dans tout ce que vous faites, de le reconnaître dans toutes nos voies. Parce que c'est le meilleur, puis il n'y en a pas d'autre comme lui. C'est tout, c'était tôt, comme tu as dit.